Nous ne savons jamais où un peu de temps et de bonne humeur peuvent nous conduire. Ce cœur parlé reprend avec liberté et sous le regard d'un des quatre porteurs l'histoire de la guérison de l'homme paralysé dans les évangiles. Éliphaz, marchand de passage, donne un coup de main pour emmener Caleb, le malade, vers ce Jésus dont tout le monde parle. Les amis sont une bénédiction. Dans le texte biblique, ce sont ses amis qui le portent, le mènent sur le toit et font un trou pour le placer devant Jésus. Dans le cœur parlé, les amis réussissent à convaincre Caleb, l'homme malade au caractère de cochon. En paroisse aussi, dans notre entourage, nous connaissons ces situations où une personne seule trouve des amis fidèles parmi nous. Il arrive aussi que face à l'adversité de la vie, nos amis puissent se sentir abandonnés par Dieu. Nous pouvons alors devenir ses porteurs, ceux qui, animés par la confiance, vont essayer de les accompagner du mieux possible vers ce Christ sauveur, qu'il ne semble pour eux plus possible d'atteindre par leur propre force. Peut-être avons-nous été nous-mêmes au bénéfice de ces amis qui nous ont aidés et portés dans notre foi dans des moments compliqués. Dans notre récit, c'est encore par la foi des amis que Jésus va guérir l'homme. Nous lisons dans l'évangile de Marc, « Quand Jésus voit leur foi, il dit aux paralysés, « Tes péchés sont pardonnés. » Quand Jésus lit chez ses amis la sincérité de leur cœur, il pardonne à l'homme malade. Rendez-vous compte, ce verset signifie que nous pouvons être guéris grâce à l'amitié et à la confiance de ceux qui nous aiment, même si nous-mêmes n'en sommes pas convaincus. C'est ce que nous appelons aussi la prière d'intercession pendant nos cultes. La guérison du cœur est le premier miracle de Jésus pour cet homme. Le pardon va le conduire à être en capacité de recevoir l'amour de Dieu. Celui qui ne voulait rien savoir, nous raconte Éliphaz, sent une chaleur entrer en lui quand Jésus lui parle. Le pardon de Dieu fait reculer en nous l'obscurité. Oui, le pardon libère et vous l'avez tous expérimenté dans vos vies. Recevoir le pardon, quand on a blessé quelqu'un, restaure notre relation. De même, pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal nous permet de passer à autre chose et de revivre, sans nous enfermer dans des ressentiments qui nous détruisent. À la dernière séance de caté avec les plus grands, nous avons partagé sur ce thème. C'est une certitude, le pardon en Christ nous libère. Dans le cœur parlé, Éliphaz parle de la force du pardon qui est la marque d'un amour plus fort que tout. Et il dit aussi à la fin qu'il n'a pas tout compris de ce qui s'est passé dans cette histoire, mais qu'il retient un amour capable de transporter des montagnes. Les mots d'Éliphaz nous rejoignent. Nul besoin de tout comprendre, et la quête est vaine de toute façon. Celui qui dirait « j'ai tout compris » se prendrait pour Dieu. Et puis, cela se gâte dans notre récit. Le pardon donné par un homme au nom de Dieu révolte les religieux, qui l'accusent de blasphémer. Blasphémer, ça veut dire se prendre pour Dieu. Alors Jésus va opérer un second miracle, plus visible, pour témoigner, écrit Marc, que le Fils de l'homme a les pouvoirs de pardonner les péchés sur la terre. Mais manifestement, pour Jésus, le miracle, ça y est, il a eu lieu. Le pardon donné à l'homme malade l'a déjà sauvé. Et puis viennent ces mots, très connus de l'Évangile. « Je te le demande, dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. » Trois ordres brefs, clairs et démonstratifs. Toutefois, quelque chose d'étrange. Alors les jeunes, est-ce que vous m'avez bien écouté? Les trois ordres, le premier, lève-toi, le deuxième, prends ton lit, et le troisième? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous paraît bizarre? Prends ton lit. Pourquoi c'est bizarre? Oui, et puis encore. S'il est debout, il n'a plus besoin de son lit, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus lui demande de prendre son lit? Il l'a mis debout. Lève-toi et marche, aurait bien suffi. Pourquoi il lui dit « prends ton lit » Alors, on va devoir aller regarder un petit peu le grec. Le premier verbe, « egeiro », »,« lève-toi », c'est le verbe de la résurrection. C'est-à-dire, il lui dit « ressuscite, deviens un homme nouveau ». Le deuxième verbe, « prends »,« prantanat », signifie effectivement « prendre », mais dans le sens de « faire lever ». C'est intéressant. « Prantanat », dit Jésus, cela signifie « fais-la lever. Comme toi, tu es homme nouveau. Tout ce qui t'encombre dans ta vie, fais-le lever aussi avec toi. Fais-en du neuf. » Jésus dit qu'en homme pardonné, il est maintenant debout, mais il emporte avec lui tout ce qu'il avait encombré. On ne tire pas un trait sur notre vie passée quand nous sommes en Christ. Nous emportons avec nous tout notre être, toutes nos expériences, toutes nos blessures. Mais ce que dit le Christ dans cette phrase, c'est « fais lever tes soucis, qu'ils ne t'écrasent pas, mais qu'ils soient à tes côtés, neufs et debout. » En Christ, nos soucis perdent de leur pouvoir. Ils peuvent souvent nous écraser et nous mettre à terre. Jésus le Christ nous invite, nous appelle et nous offre cette possibilité de les avoir à nos côtés, mais sans qu'ils puissent nous écraser. Le troisième verbe utilisé par Jésus, en grec, signifie « marcher », mais dans le sens « faire des allers-retours ». Et là aussi, c'est intéressant. C'est pas seulement marcher droit devant, monter la montagne, une progression constante jusqu'à atteindre les sommets. Faire des allers-retours. Jésus nous dit « oui, tu vas avancer, mais tu vas peut-être aussi reculer. Mais tu seras debout et vivant. » Alors, vous l'entendez, c'est finalement quatre guérisons que l'homme Jésus va offrir à cet homme. Le pardon, le fait d'être debout, de transformer nos soucis et de marcher. On peut se demander si, comme pour Jésus, l'homme malade s'est senti guéri dès le premier miracle, dès l'annonce du pardon de Dieu. Qu'en pensez-vous? Oui? Est-ce que ça lui aurait suffi, sans qu'il soit physiquement guéri, mais déjà d'être pardonné par Dieu? Est-ce que vous pensez que ça aurait pu lui suffire pour se sentir aimé? Oui? Alors le texte ne nous le dit pas. Mais on est libre de l'imaginer. On peut aussi se demander, nous, qu'est-ce que nous attendons comme guérison de la part du Christ? Le pardon? La guérison physique? Dans notre Église traditionnelle réformée, il est plus habituel de lire cette deuxième guérison de façon symbolique, comme je viens un petit peu de le faire. Toutefois, le premier sens qui s'offre à nous dans le récit biblique, c'est bien cet homme qui était couché et qui désormais marche. Ces miracles dans les évangiles nous bousculent. J'ai prié pour la guérison, mais Dieu n'a pas guéri. J'ai prié encore. Lui est guéri, et elle n'est pas guérie. Pourquoi? Alors nous faut-il laisser au placard ces demandes et ces prières de guérison physique, qui sont finalement décrits tellement humains? Non, je ne le crois pas, car il est juste de prier. Il est bon de prier encore et encore, tout en acceptant la liberté de Dieu. La prière, dans la confiance et dans l'espérance, a le don de nous placer face au Seigneur, en nous permettant de mettre des mots sur nos vies et de celles de nos frères, nous permettant de nous ouvrir au souffle de Dieu. Ne lâchons jamais la prière. C'est la pépite de notre foi. Et quand nous n'arrivons plus à prier, quand la vie est trop difficile, quand nous nous sentons écrasés, demandons à des amis, comme dans notre texte, de prier pour nous, et de nous aider à retrouver cette lumière, de nous aider à rejoindre de nouveau ce Christ. Rejoindre le Christ par nos propres efforts ou par ceux de nos amis? Mais je croyais qu'en Dieu, par sa mort et sa résurrection, c'était désormais lui qui nous rejoignait. Ben oui, aujourd'hui, nous confessons et nous témoignons que c'est le Christ qui vient vers nous, et non pas nous qui devons aller vers lui. Amusons-nous pour finir avec un petit renversement de notre histoire. Dans le début du chapitre 2 de l'évangile de Marc, Jésus est dans une maison trop pleine pour que les amis de l'homme puissent entrer. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes dans cette maison, trop pleine, avec notre confort, notre train-train quotidien, ce que nous aimons, mais aussi avec nos soucis, nos peurs et les bruits du monde. Notre petit chez-nous est plein à craquer. Combien j'entends de familles me dire vivre à des rythmes insensés, courir toute la semaine et même le week-end. Oui, nous sommes si pleins, mais pleins de quoi ? Reste-t-il une place pour laisser entrer en nous le tout autre ? Sommes-nous capables de faire du vide chez nous pour laisser y habiter le souffle ? Mais notre Dieu est plein de ressources. Plein de ressources pour venir jusqu'à nous. En Christ, il promet d'être celui qui est le proche. Et il trouvera toujours les moyens nécessaires pour se faire connaître. Alors, de notre maison trop pleine, si la porte ne s'ouvre pas, trop paralysée par nos barrières, Dieu trouvera les amis nécessaires pour trouer notre existence et passer par notre toi, ou plutôt par notre moi, pour pouvoir nous dire face à face, « Mon enfant, je suis là et je t'aime. » Mes amis, le miracle, les miracles sont tapis à nos portes, à nos fenêtres, près de nos cœurs. Le Christ est là. Tel Eliphaz, laissant place au temps et à la bonne humeur, à nous désormais de le reconnaître et de l'accueillir. Et si le premier miracle, tes péchés sont pardonnés, semble ne pas nous parler, prenons le deuxième, le troisième ou le quatrième. Je te le demande, dit Jésus, sois de nouveau vivant. Vis avec tes soucis sans les laisser t'écraser et marche en mon nom. Et alors, comme les gens de la maison qui sont étonnés des prodiges de Jésus, nous proclamerons aux côtés de tous ceux qui croiseront notre route. Nous n'avons jamais vu chose pareille. Oui, Dieu est grand. C'est vrai. Alléluia. Amen.